Donc, je joindrai ce modèle à la délibération pour qu'on puisse corriger et intégrer les phrases qui ont été rajoutées par le département. Et pour être en conformité avec la délibération, nous devons le renvoyer immédiatement après le conseil pour qu'on ait vraiment nos arbres au mois d'octobre, si possible. Voilà. Avez-vous des questions?
Merci Marie-Hélène. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous allons passer au 10e point, l'avis sur le projet de pacte de gouvernance de Montpellier Méditerranée Métropole. Donc, vous savez que depuis le mois de juillet 2020, un nouveau mandat avec de nouveaux élus sont arrivés à la métropole de Montpellier, donc avec M. Delafosse comme président de la métropole. Cette métropole a voulu présenter à toutes les communes, aux 31 communes, présenter un pacte de gouvernance. Dans ce pacte de gouvernance, la mandature actuelle a voulu mettre au centre de ce pacte de gouvernance le maire de chaque commune. La métropole est donc formée de Montpellier et de ses 31 communes. Monsieur Delafosse a beaucoup insisté sur le fait qu'il désirait un échange très fort entre les communes et la métropole. Donc il nous a envoyé au mois de février une lettre, un questionnaire plutôt, que nous avons rempli, nous demandant ce qu'on attendait d'une métropole à tout point de vue. Donc j'ai répondu à ce questionnaire et suite à ça, il a été organisé une rencontre par commune, ce qu'ils ont appelé une rencontre territoriale par commune. Nous avons eu notre rencontre entre Prades, Jacques Clapier et Montferrier le 2 avril, réunion à laquelle je suis allée avec Monsieur le DGS. Et nous avons fait nos remontées au cours de cette réunion, tous ensemble, toutes les communes ensemble, suite à la proposition de ce pacte qui est basé sur, comme vous avez pu le lire, hein, sur différentes valeurs demandées par la métropole. La métropole demande à ce que ça soit, il existe une relation plus forte et que les communes sachent, quand elles téléphonent à la métropole, qui elles doivent appeler. Parce que c'est vrai que je me souviens de la mandature précédente où il était très compliqué quand on appelait la métropole, mais on ne savait jamais à qui s'adresser, s'il y avait de véritables référents pour chaque commune. Aujourd'hui, la métropole est organisée en pôles. Nous dépendons du pôle Vallée du Lez. Et dans ce pôle, il y a 6 communes, Prades, Jacou, Clapier, Castelnau, Le Crès et nous. Et à partir du moment où nous avons un pôle, nous avons des référents à tout niveau. Nous avons un référent voirie, nous avons un référent nettoiement, nous avons, enfin, etc. Donc nous avons des gens bien dédiés avec des numéros de téléphone et des mails que nous pouvons contacter. D'ailleurs, on ne s'en prive pas, on les appelle à longueur de semaine. Voilà. Donc, le pacte de gouvernance, c'est la principale notion, c'est vraiment d'accélérer le contact entre les différentes communes et la métropole elle-même, le gros service de la métropole. Donc, nous avons eu cette réunion le 2 avril, nous avons fait, chaque commune a fait remonter tout ce qu'elle pensait sur ce pacte de gouvernance, et c'est reparti en séance de travail, et ils ont amendé ce pacte de gouvernance en fonction de tout ce que les maires ont pu réclamer comme amélioration. Et ça a été voté ensuite, donc en bureau des maires, donc d'abord en conférence des maires, puis en bureau des maires, et ensuite, maintenant, ça part dans les 31 communes, pour que chaque conseil municipal puisse donner un avis, puisque ce n'est pas un vote, c'est un avis que nous donnons sur ce pacte de gouvernance. Et il est demandé aujourd'hui au conseil municipal de donner un avis, et moi je vous l'ai dit, favorable pour ce pacte, parce qu'il est nécessaire pour nous, et nous nous en rendons compte, nous qui travaillons beaucoup avec la métropole, par exemple au niveau des travaux, on se rend compte que depuis qu'il a été créé ce contact direct avec cette métropole, nous avançons beaucoup plus vite sur tous les dossiers. Donc, notre pôle Vallée du Lez est un pôle qui est très important pour nous. Donc, je pense que ce pacte de gouvernance est nécessaire pour la suite de la mandature. Et normalement, derrière, nous allons avoir un pacte financier qui va concerner donc, tout ce qui, toutes les AC, donc les attributions de compensation, récupèrent les communes pour pouvoir faire les travaux. Ce pacte financier, aux dernières nouvelles, sera très, très, très léger. Donc, il n'y aura pas de révolution par rapport à ce qui était déjà fait depuis plusieurs années. Donc, l'essentiel, c'est ce pacte de gouvernance que la métropole a établi, a fait un gros socle sur lequel on s'appuie. Et comme vous l'avez vu, il y a des valeurs qui sont importantes. La coopération intercommunale, par exemple. Donc, elle se manifeste comment, cette coopération intercommunale? Ça nous permet d'avoir des réseaux d'échange, des réseaux de partage. Il y a des réunions qui se font avec telle ou telle commune. Et ça nous permet justement de faire remonter nos difficultés et de savoir comment dans telle ou telle commune ils gèrent la problématique, et nous ça nous fait avancer aussi, et tous ensemble on fait remonter ça à la métropole. Vous avez aussi une valeur qui est la valeur de la solidarité, est importante, le respect des diversités, ça aussi ça a été un gros sujet, parce que selon les communes, vous avez des communes qui sont qui ont des courses taurines par exemple, vous avez chaque commune, enfin chaque, non, certaines communes ont des spécificités. Et aujourd'hui, il était nécessaire au sein d'une grande métropole comme la nôtre de pouvoir respecter les diversités de chaque commune et ne pas dire on interdit les courses taurines parce que voilà, on est contre les taureaux. Donc ça, Michael Delafosse a vraiment bien insisté sur le fait que chaque commune a sa particularité et chaque commune sera respectée en tant que telle. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose aussi. Et ensuite, bien entendu, une valeur de vision et de projet. On est toutes les communes sont ensemble, et ensemble, nous portons des projets pour la métropole en général et qui pourront se répercuter sur chaque commune. Par exemple, la ligne 5 du tram, qui favorise donc la favorisation de les transports en commun, bah nous, ça va nous impacter et ça va nous permettre de pouvoir aller en ferrier à Montpellier avec le tram. Les pistes cyclables, ils ont un grand projet de pistes cyclables, hein, le maillage des pistes cyclables dans toute la métropole. Bon, mais c'est un projet d'envergure de la métropole. Toutes les communes y sont associées et la métropole nous aide à avancer sur ces pistes cyclables qui vont être créées un petit peu partout. Donc voilà l'intérêt du pacte de gouvernance. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors après, excusez-moi, Monsieur Bord, ce pacte de gouvernance, bien sûr, il est basé sur toutes les commissions qui existent, sur le bureau des maires, la conférence des maires, sur les rencontres territoriales. Donc là, nous avons une première rencontre territoriale demain ou après, la semaine prochaine. Et ensuite, ils veulent mettre en place des assises une fois par an. Alors là, pour l'instant, évidemment, comme ils viennent d'arriver, ça fait qu'un an, on n'a pas eu l'assise générale. Donc, nous allons tous nous retrouver pour pouvoir échanger sur les différentes problématiques. Donc, c'est assez structuré. Ça permet un petit peu à tout le monde d'exister, de pouvoir s'exprimer. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc, voilà, je vous demande de bien vouloir émettre un avis favorable après avoir répondu aux questions si vous en avez.
Bien. Donc, ce projet, je cite là, ce dispositif est l'occasion pour les communes, suite au renouvellement général du conseil municipal, de définir ensemble les modalités de la coopération au sein de la métropole. Bien sûr, Céline Gollet et moi-même, puisque vous nous demandez de voter, sommes prêts à travailler avec vous toutes et avec vous tous sur ces modalités de coopération avec la métropole. D'autant plus que la métropole, on le sait, exerce nombre de compétences, 10 au total, soulignées. Ils vont démontrer aménagement et urbanisme, habitat, cohésion sociale, déplacement, etc. Mais voilà, comme toujours, tout est déjà bouclé et nous n'avons eu aucune information ni concertation pour en parler. Madame le maire, vous venez de le dire vous-même, vous avez décidé seul pour Montferrier. En février, vous avez eu un questionnaire auquel vous avez répondu. Vous avez eu une rencontre le 2 avril auquel vous êtes allé avec le DGS, mais rien. Alors, c'est la question que je pose, et suite un peu existe quand même, on est là, on est présent, on peut vous donner des idées, on peut participer. On attend, on n'est pas là simplement pour servir des gâteaux et servir l'apéritif. Voilà, on aimerait participer véritablement et non pas voter une fois que les choses sont bouclées. Pourquoi, encore une fois, vous ne nous associez pas davantage? Vous représentez 25% de la population qui s'est exprimée. Vous réunissez 13, nous 10, au total 50% des gens ont voté. Parce qu'il y aurait été un peu ça, on existe, on représente des gens. On voudrait aussi participer à cette vie communale, hein, à aider. On vous l'a dit lors du premier conseil, je vous ai tendu la main. Ça fait un an, que l'on est là, conseil municipal. Et vous n'avez pas pris cette main tendue. Je le regrette vraiment, non seulement pour nous tous, parce que travailler ensemble, c'est quand même beaucoup mieux, mais je le regrette pour tous les habitants de la commune de Montferrand. Voilà. Alors, certes, ce projet est intéressant, hein, un projet de gouvernance, c'est toujours bien, mais pourquoi ne sommes-nous pas associés au moins un ou une personne de l'opposition, le fait de la minorité, appelez-nous comme vous voulez, mais voilà, nous sommes prêts, mais voilà, rien. Je le regrette.
Ils écoutent beaucoup, ils nous suivent sur la plupart des sujets.
Ils sont, non, la relation est bonne avec la métropole, et tout ce qui est écrit dans ce pacte, je ne vais pas dire que c'est respecté à 100% parce qu'il n'est pas encore mis complètement en place. Aujourd'hui, ça n'a été qu'un travail depuis le mois de janvier. Ils y travaillent parce que, encore une fois, vous dites que vous n'avez pas été associé, mais nous non plus. C'est-à-dire que on nous a mis devant le fait accompli, c'est-à-dire que toute la grande trame de ce pacte de gouvernance était déjà écrite. Et donc, il fallait à nous de nous positionner sur certains points et de pouvoir amender certains points, sachant que tout était déjà bien cadré. Parce que, et quelque part je dis c'est normal, M. Dallafosse avait une idée de sa mandature. Il savait où il voulait aller et qu'est-ce qu'il voulait faire de la métropole. Donc à partir de là, le cadre était très bien déterminé, les chapitres et sous-chapitres existaient déjà, et nous avons amendé sur la relation directe d'une commune avec la métropole. Donc nous sommes descendus en sous-chapitre en disant nous, au niveau voirie, on aimerait plus de contacts, plus d'interventions, plus. Mais le cadre général était établi par la métropole. On y adhérait, on n'y adhérait pas. Point. Et si on n'y adhérait pas, c'est un vote, encore une fois. Donc au vote, les gens, aujourd'hui, ce qui se passe à la métropole, c'est que tout le monde fait confiance à M. Dallafosse. Tout le monde, que les communes soient de droite ou de gauche, tout le monde fait confiance à M. Dallafosse pour ce nouveau mandat. Parce que beaucoup, je vais dire 80%, je crois, des maires de la métropole sont des maires qui ont renouvelé un mandat. Des maires comme moi, il y en a très très peu, on est très peu dans la métropole, qui sont arrivés avec M. Dallafosse. Et ces maires ont vécu de tels problèmes avec M. Sorel qu'aujourd'hui, ce que propose M. Dallafosse, ils en sont ravis. Parce qu'ils sentent qu'il y a une volonté de la part de Michael Dallafosse de faire avancer les choses dans le bon sens en remettant les maires des communes au centre de tout. Chose que n'avait plus fait Sorel, puisqu'il était devenu de plus en plus dictateur, je dirais, et il s'est marginalisé de plus en plus tout au long de son mandat. Donc, M. Dallafosse n'en veut pas, ça. Donc, du coup, il a décidé que le maire était le personnage le plus important dans les communes, et c'était lui qui allait porter la vision de sa commune, puisque c'est lui qui a été élu, et il lui donne un rôle important. Et je trouve que c'est bien. Et donc, toutes les communes, aujourd'hui, on a tous voté à l'unanimité le pacte de gouvernance, parce que tout le monde est en attente de quelque chose avec ce pacte de gouvernance. Maintenant, 6 ans, c'est long. Vous voyez, au bout d'un an, vous n'êtes pas content. Donc nous, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, peut-être qu'on ne sera pas content du travail qu'aura établi M. Dallafosse. On ne sait pas. Aujourd'hui, on lui fait confiance et on dit, on va bien voir ce qui va se passer pendant ces 6 années. Donc on signe le pacte de confiance, on valide cette nouvelle façon de voir les choses. Et puis, on va attendre pour voir si vraiment ça va bien se passer. Aujourd'hui, cette première année, ça a été une mise en place de beaucoup de choses. Alors, bien sûr, il y a eu des ratés, mais c'est comme tout. C'est comme nous, vous êtes très exigeants par rapport à nous, mais c'est une première année et nous avons des ratés. Bon, tout le monde, la métropole, c'est pareil. Et pourtant, ce sont des gens qui font de la politique depuis longtemps, qui sont aux commandes de plein de choses depuis longtemps, mais ils font des erreurs aussi. Et c'est normal, quand on arrive, il faut trouver ses marques. Bon, on a des couacs avec la métropole, mais petit à petit, ça s'améliore. Donc, on espère que, sur le mandat, on va arriver à une belle relation avec la métropole dans une bonne entente. Maintenant, moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire plus. Moi, nous avons tous voté à l'unanimité pour. On lui a fait confiance, donc aujourd'hui, je vous demande, vous aussi, d'être derrière et de lui faire confiance. Et puis, après, on verra, il sera toujours temps. Il y en a des conseils de métropole durant l'année. Il y en a, il sera toujours temps à un moment donné de dire, là, on est contre, on n'est pas d'accord. Finalement, on nous avait dit ça, c'est autre chose, donc on est contre. Mais ça, on aura le droit, c'est la démocratie, on aura le droit de s'exprimer. On n'est pas contraint. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut donner sa chance à cette nouvelle équipe, parce qu'ils sont dans une autre façon de voir les choses, Et il y a de l'ouverture, il y a tout ça, donc moi, je pense qu'il faut jouer le jeu. Et aujourd'hui, je peux, on peut tous le dire, nous qui travaillons avec la métropole, avec des réunions, etc., sans arrêt, nous pouvons le dire, nous avons de très bonnes relations avec la métropole et ça se passe très, très bien.
Avec des réactions positives, concrètes.
Et rapides. Et rapides.
Ouais.
Chose qu'on n'avait pas depuis plusieurs années.
Je voudrais juste une question pour terminer. Parce que dans nos mandatures précédentes, nous avons pu participer aux commissions. Ces commissions, maintenant, ont été réduites au nombre de 7. Ce que je trouve intéressant dans le pacte, là, c'est que ce ne sont pas les élus qui sont en charge de la commission qui président les commissions. Mais ma crainte, je ne sais pas si elles ont déjà eu lieu, ces commissions, s'il y en a déjà eu. Mais je me souviens, moi, que il nous est arrivé de participer à des commissions dont le compte-rendu de la commission était déjà signé avant que la commission ait lieu. C'est-à-dire que ces commissions ne servaient absolument à rien. Et là, je serais très curieux de savoir comment ça se passe.
Alors, je vais te le dire très honnêtement, ces commissions ont déjà eu lieu puisque ces commissions ont lieu systématiquement 15 jours avant le Conseil de Métropole. Systématiquement. Pour pouvoir, justement, délibérer en Conseil de Métropole. On peut interroger toutes les personnes qui vont à ces commissions, elles sont très très déçues. Très très déçues. Et on retombe sur le même système qu'avant. C'est-à-dire, on arrive, on a un ordre du jour, tout est déjà réfléchi, je ne vais pas dire délibéré, mais tout est déjà réfléchi, et on vous dit, bon ben voilà, et comme ils ont réduit de 24 commissions à 7 commissions, tu imagines le nombre de sujets à traiter en une heure et demie. C'est absolument dément. Donc,
c'était en visio.
En plus, c'était en visio. Donc, l'échange, vous comprenez bien que l'échange, tout le monde s'est rendu compte aujourd'hui que la visio, c'était très bien. Ça permettait de pouvoir maintenir des réunions, mais c'est catastrophique au niveau échange. Parce que vous avez beaucoup de gens qui ne savent pas comment prendre la parole. On lève la main, on appuie sur le micro, on coupe, il y a du larcène, on ne s'entend pas. Enfin, on sait. Et la métropole a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec les visios. Je ne sais pas pourquoi, ils n'avaient pas l'Internet comme il fallait, enfin bon, je ne sais pas, alors, il y en avait dans des bureaux, on ne les entendait pas, on ne comprenait pas, enfin, donc très compliqué. Et le fait d'avoir réduit à 7 commissions, ça a multiplié le nombre de sujets pour une seule commission, ce qui fait que ben, vous arrivez, enfin, je ne sais pas, vous pouvez parler, Jean-Pierre, par exemple.
En fait, quand il y a un débat qui existe sur un sujet, on n'a plus le temps de traiter les autres. Donc il y a la moitié des sujets qui sont traités et les autres qui sont... Bon, on est d'accord, tout le monde est d'accord parce qu'on ne les a pas traités.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a, quelques parties de ce pacte de gouvernance qui sont des usines à gaz. Moi, je vous dis, un conseil de métropole, ça fait deux de suite où je reste 9 heures au conseil de métropole pour voter 122 délibérations. Je pense que ce n'est pas possible. Sachant que on a eu le bureau des maires où on a déjà accepté beaucoup de choses, il y a eu une conférence des maires, on arrive et on reste 9 heures. 9 heures au conseil de métropole pour, je vous dis, 120 délibérations. Enfin, donc je pense qu'il y a des problèmes. Mais comme on veut mettre en place, comme la démocratie doit se mettre en place et c'est une obligation, je pense que ce n'est peut-être pas si facile de trouver un moyen, je ne sais pas, plus adapté pour qu'on ne passe pas 9 heures. Vous comprenez bien que de 8h30 à midi et demi, tout le monde est présent et à midi et demi, tout le monde s'en va. Il y a plein de maires qui ont plein de choses à faire l'après-midi, donc ils s'en vont. Vous avez des gens qui ont des réunions, et on se retrouve avec des sujets qui sont votés et ça passe comme ça puisqu'il y a beaucoup d'absents. Alors après, ils ont mis en place, comme c'était problématique, ils ont mis en place un papier qu'ils nous envoient après en nous demandant nos votes. Parce que ben, vous n'étiez pas là, mais qu'est-ce que vous avez voté? Qu'est-ce que vous auriez voté? Moi, ça me semble... Et puis, vous ne pouvez pas concentrer pendant 9 heures. Vous ne pouvez pas écouter une personne qui va exprimer quelque chose, qui va s'opposer. C'est impossible. Parce qu'au bout de 5 heures déjà de conseil... n'en pouvait plus. Surtout si il y a eu 3 heures de discussion sur un sujet qui était, par exemple, quand ils ont fait le plan de mobilité et qu'il fallait voter les 150 millions, il est évident que ben, ça a duré, le débat a duré, parce que vous aviez des gens qui voulaient comprendre, qui s'opposaient, etc., etc. Quand vous avez discuté pendant 3 heures là-dessus, Quand arrive derrière toutes les autres questions, ça passe. Parce que, ben, donc, je pense que la métropole n'est peut-être pas le meilleur des systèmes. Parce que c'est une grosse entité, et que c'est lourd à porter, et qu'ils essayent. Alors, on s'est tous plaints en disant qu'il y avait 24 commissions avant et que c'était déjà pas évident, mais les réduire à 7, c'était terrible. Bon, on n'a pas été entendu. On n'a pas été entendu. On nous a dit, mais non, c'est beaucoup mieux, 7, etc. Et aujourd'hui, il me tardait de voir ce qui allait être dit à ces commissions, et finalement, ces commissions ne servent à rien. Enfin, moi, j'y suis allée sous l'ancienne mandature, Jean-Marie, on y allait, on ne servait à rien, on ne servait à rien, et ça recommence. Et ça recommence.
Donc, oui, parce que normalement, une commission, c'est une commission de travail.
Mais tu ne peux pas travailler quand on est 30, 40.
C'est-à-dire qu'il faut les anticiper, quoi.
Alors, attends, en plus, on a l'ordre du jour la veille.
Hein. On a l'ordre du jour la veille.
Donc, tu arrives, tu as 1h30, tu as 24 sujets, il y a 31 communes, tu comprends.
En fait, oui, la problématique vraiment sur ces commissions, c'est l'ordre du jour, parce qu'on le reçoit, comme on vient de dire, la veille. Il est quand même assez conséquent. Il y a tout, comme pour les délibérations, les notes de synthèse, hein, on reçoit les notes de synthèse. On doit étudier ça en 1h30, Brigitte l'a dit. En plus, beaucoup de sujets concernent des communes en particulier. Ouais. Donc, quelle légitimité avons-nous de nous prononcer sur le territoire d'une autre commune que nous ne connaissons pas forcément, dont nous ne connaissons pas les spécificités. Donc, voilà, c'est très compliqué.
Et ça arrive ensuite en conseil de métropole où on a 10 affaires sur la commune de Pérol. Je ne vais pas m'opposer, moi, à ce que veut la commune du Pérol. Enfin, je me vois mal voter contre ce que demande la commune du Pérol. Enfin, je me dis, mais je ne connais pas le dossier. Si Pérol demande ça, c'est que certainement ils en ont besoin. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maires votent pour. Parce que, voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas. Qui n'est pas logique. Enfin,
ça concerne bien la gouvernance.
Oui, ça compte. Ça concerne la gouvernance, mais on est. Vous savez, c'est quand même. Comment dire. Le président et son staff qui impulsent ce pacte de gouvernance, qui impulsent les idées. Et ces idées-là, ce sont les siennes. Et on a beau dire. Regardez, on s'est bien opposé sur le fait qu'on soit passé de 24 commissions à 7. Ils avaient décidé que c'était 7. Parce qu'ils pensaient que 7, c'était mieux. On leur a expliqué, on leur a montré, et ils ont tous été maires dans l'ancienne mandature, et ils ont eu des élus qui sont allés aux commissions, donc ils le savent très bien. Donc c'est vraiment en tout état de conscience qu'ils ont décidé de passer à 7. Et on n'a pas eu notre mot à dire. C'est pour ça que quand vous dites « on n'est pas intégré », etc., il faut quand même vous imaginer que la métropole, c'est un gros bateau, que nous, on est dedans, mais que le capitaine, c'est pas nous, hein. C'est pas nous du tout. Hein. Nous, on essaye d'infléchir de temps en temps certaines idées, et plus on est nombreux, plus. Mais après, vous savez qu'il y a d'autres problèmes qui entrent en jeu, c'est-à-dire le pouvoir. Et donc, contre le pouvoir, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que vous en avez qui sont très intéressés et qui vont ne pas contrer parce que, voilà, etc., etc. Mais c'est de la politique. Donc, c'est pas aussi limpide que vous pensez et vous me reprochez de ne pas vous avoir mis là-dedans, mais les réunions, par exemple, la réunion territoriale qui a été organisée, c'était le maire et son DGS, sur demande de la métropole.
Mais préalablement, vous avez eu un questionnaire, on aurait pu être associé à...
Le questionnaire était destiné, monsieur Bord, le questionnaire était destiné au maire. Après, c'est toujours pareil. Moi, quand là, pour ne pas parler du PLUI, vous nous réclamez le PLUI. Aujourd'hui, ils n'ont rien prévu encore comme organisation. Et aujourd'hui, c'est pour ça que Jean-Pierre Demont vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous venons de recevoir un mail comme quoi une réunion sur le PLUI va être organisée en septembre. Mais laissons-leur le temps de mettre en place les choses. Et moi, j'attends qu'ils nous disent comment ils vont organiser ça. Quand on y allait sous l'ancienne mandature, le PLUI est arrivé, ils étaient à déjà 14, 15, 16, 3 ans, voire 4 ans de mandat. Donc ils ont eu le temps de le préparer, ce PLUI. Aujourd'hui, il vient d'arriver. Donc il y a tellement de choses à faire qu'il fait les choses petit à petit. Donc pour lui, la principale question à trancher, c'était le pacte de gouvernance, et je pense qu'ils l'ont beaucoup travaillé entre septembre et décembre. Ensuite, ils nous l'ont présenté. Et les questionnaires, on se rend bien compte que le questionnaire qu'on a reçu était des questionnaires déjà orientés un petit peu dans ce qui vous attendait. On ne vous disait pas qu'est-ce que vous pensez de la relation avec la métropole. On vous orientait. Les questions étaient plus ou moins orientées. Donc vous alliez dans la réponse. Alors soit vous étiez tout à fait dans le moule et vous répondiez ce que la métropole voulait vous entendre, ou soit vous répondiez quelque chose de bon, qui vous correspondait plus à vos communes, parce que voilà. Mais c'était compliqué. Moi, pour tout vous dire, il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Parce que c'était des questions très orientées, et j'ai dit, je ne répondrai pas. Je vais attendre d'avoir une réunion de pôle, où on s'est retrouvés à 4 communes, et 4 ou 5 communes, et tout le monde a échangé. Et là, c'était intéressant, parce qu'un questionnaire, c'est des questions, c'est tout. Hein. Après, l'intérêt, c'est, il y avait Renaud Calva et Mme Cassard-Pignan, l'intérêt, c'était après de leur dire, bon ben voilà, sur cette question-là, nous, on ne l'a pas comprise, qu'est-ce que vous vouliez dire? Et là, on a eu des échanges intéressants. Et là, on a pu faire avancer, ben voilà ce qu'on veut dire, ah ben non, on n'est pas d'accord, etc., etc.
Et le partage,
mais non, monsieur Borges, je vais vous arrêter tout de suite, je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune expérience politique de la métropole, comme moi. Donc, si je n'ai pas pu y répondre, vous n'auriez pas pu y répondre. Et Michel Bourrelli n'aurait pas pu y répondre non plus. Parce que nous n'avons pas siégé au sein de la métropole pendant 6 ans. Et c'est pour ça que je pense que les maires qui se faisaient réélire, qui se sont fait réélire, étaient beaucoup mieux placés que vous ou moi qui suis devenu maire en juillet 2020. Parce que nous n'avons aucune expérience de ça. Donc on vous pose des questions, mais oui, on attend des choses, oui, on a des idées, on attend des choses. Mais comme c'est très dirigé, ben, vous êtes à un moment donné dans l'impasse, vous ne pouvez pas répondre. Parce que nous n'avons pas d'expérience. Et du coup, vous avez les maires anciens, comme à cette réunion, il y avait M. Laforte de Castelnau, qui était un maire réélu, qui lui a pu intervenir en disant, oui, mais tu te souviens, dans l'ancienne mandature, on avait ça. C'était pas bon, donc on va pas réitérer, etc. Mais nous on est des vierges de tout, donc ben nous on écoutait, et puis avec notre réflexion, on disait, ah ben oui, nous on adhère, ou non, ça on pourrait un peu mieux l'amender. Voilà, c'est tout. Donc je vous dis, en tous les cas, le PLUI, il y aura une réunion en septembre, donc vous serez conviés à la réunion au PLUI en septembre, et vous verrez comment ça se passe, et nous verrons comment ça se passe, parce que je ne sais pas comment ils vont l'organiser, je ne sais pas du tout. Nous, on a vécu quelque chose sur l'ancien mandat, on va voir comment ils vont le faire cette fois-ci. Voilà, donc maintenant je vous demande, je reviens donc sur, êtes-vous d'accord pour émettre un avis favorable sur ce pacte de gouvernance qui est proposé par la métropole, qui est contre ce pacte, qui s'abstient? Donc je vais pouvoir dire que la commune de Montferrier a émis un avis favorable à ce pacte de gouvernance qui sera voté en conseil de métropole le 19 juillet. Je vous remercie pour la métropole et l'avenir de la commune. Donc là, nous avons fini les points d'ordre du jour et nous allons commencer les informations. Donc dans les conseils municipaux, j'aimerais maintenant mettre un ordre du jour et puis mettre quelques informations, quand il y en a, bien entendu, des informations qui sont des informations importantes pour la commune. Et donc, aujourd'hui, nous avons 3 points. Le premier point, c'est l'information sur une DIA route demande. Alors, quelle est cette DIA sur la route demande? Nous avons appris durant l'année que nous avions un propriétaire route demande, la route avec tous les placards qui se trouvent le long du Lez, qui avait un propriétaire qui demandait ses terrains. Donc, nous avons réfléchi ensemble et ça a été une problématique qui a déjà été soulevée sous Michel Fraisse, puisque à l'époque, on en avait déjà entendu parler de cette vente de terrain. Et à l'époque, l'équipe de Michel Fraisse s'était posé la question de savoir si on préemptait ou pas ces terrains. Et puis, ça n'a jamais été vendu, donc voilà, il ne s'est rien passé. Et là, c'est revenu à la mairie, on a appris donc que le propriétaire vendait ses terrains, 5 000 et quelques mètres carrés. Et on s'est dit, ça serait peut-être l'occasion de préempter ces terrains, de les récupérer. Pourquoi ? Parce que quand on est allé voir, on a vu que ces terrains n'étaient absolument pas entretenus. C'est-à-dire que vous aviez le premier terrain qui est le long de la route de Mende, qui est un terrain où il y a un bâtiment désaffecté, squatté, tout est sale, c'est incroyable. Et nous sommes en bord de l'Aisne, vraiment en bord de l'Aisne. Je pense que nous avons la chance dans notre commune d'avoir le Lez. Et c'est un magnifique fleuve. Et je pense qu'il est obligatoire de protéger ce fleuve. Alors là, nous avons la possibilité de préempter ces terrains et de pouvoir les rendre propres, de pouvoir essayer de favoriser tout ce qui est protection environnementale, tout ce qui est protection de la biodiversité, tout ce qui est... il y a des essences, nous avons travaillé avec le département sur ces terrains, et le département nous a montré qu'il existait plusieurs essences qui étaient à protéger, qu'il existait une ripisylve le long du Lez qui était en très bon état, qu'il fallait absolument conserver. Et du coup, on s'est dit, c'est l'occasion de préempter et de remettre en état ces terrains. Nous n'avons aucune... D'abord, ces terrains sont inconstructibles, puisqu'ils sont au bord du Lez, donc inondables. Ils sont absolument inconstructibles, donc aucune personne, même si nous n'avions pas préempté, aurait pu construire quelque chose. Déjà, ça c'est absolument certain. Ensuite, ce terrain, on s'est dit, on va le nettoyer, on va commencer déjà par nettoyer et faire la propreté. Je pense que c'est... Déjà, ça le mettra de lui-même en valeur. On a l'intention de travailler avec le CIL, puisque le CIL est responsable de tout du Lez. On va essayer de travailler avec l'ONF, parce qu'il y a des arbres qui va falloir protéger. Et puis, nous n'avons pas tous, autant qu'on est, la connaissance suffisante pour savoir si tel arbre est à supprimer ou pas. Donc, nous allons nous encadrer d'associations et de gens qui pourront nous permettre de mettre en valeur ces terrains. Aujourd'hui, nous ne voulons pas faire de parking. Il est hors de question de faire un parking. Pourquoi ? D'abord parce que la route de Mende est très dangereuse. L'endroit où c'est, je ne vois pas comment on pourrait faire un parking. Nous ne voulons pas attirer sur ces bords du Lez, nous ne voulons pas attirer une population autre que la population montferriéraine. Donc, si nous ne mettons pas de parking, les montferriérains pourront y aller à pied ou même en vélo, puisque je pense qu'à terme, nous aurons cette fameuse piste cyclable sur la route de Mende. Donc, nous pensons y mettre sur ce terrain de 5000 m2. On aimerait l'aménager très légèrement, parce que nous sommes en zone Natura 2000, nous sommes concernés par le Lez, nous ne pourrons pas y faire, je ne sais quoi, une guinguette, c'est pas possible. C'est absolument impossible, ça sera interdit. Donc nous allons l'aménager proprement, nous allons rendre le terrain propre, et nous allons permettre à des gens de venir pêcher, puisqu'il y a des pêcheurs. Moi, je suis allée sur le terrain, j'ai vu qu'il y avait des endroits où il y avait des gens qui venaient pêcher. Donc nous allons permettre aux gens, aux Montferriérains, de venir se pêcher ou de venir passer un petit moment, discuter avec un ami, lire un bouquin, enfin voilà. Donc voilà notre objectif. Ce n'est pas d'en faire un endroit qui sera dénaturé d'abord, ça c'est très important. Et deuxièmement, nous allons tout faire pour essayer de ne pas attirer de l'extérieur. Nous voulons rester vraiment Montferriérains, pour que on puisse retourner au bord du Lez et puis en profiter un petit peu. Je pense que c'est utile, plutôt que de laisser partir ce terrain, on ne sait pas qui va le récupérer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Voilà, je pense que c'est pour ça que nous avons décidé de préempter ce terrain sur la route de Mende. Voilà. Donc ça, c'est la première information. Bien sûr. Une remarque courte, hein, monsieur Beau.
Puisqu'on avait vu ce terrain en commission d'urbanisme à la vente, ils ont fait
avons récupéré. Les subventions, donc nous avons eu une subvention au sujet de la construction d'un terrain padel au niveau du tennis. Nous avons eu une subvention de 80 000 euros par le département. Et nous avons obtenu une subvention de 10 000 euros sur le circuit patrimonial qui est travaillé dans la commission culture et patrimoine. Donc sur le circuit patrimonial qui va être mis en place dans le village, nous avons obtenu une subvention de 10 000 euros, toujours par le département. Donc c'est une très bonne chose et nous allons pouvoir avancer sur les deux problématiques, qui ne sont pas des problématiques d'ailleurs. Vous avez des questions à poser sur ces subventions?
J'ai juste une information complémentaire. Je ne me souviens pas d'avoir vu au conseil municipal la demande concernant le padel.
Si, c'est.
Non, mais je ne m'en souviens pas. Je n'avais pas vu cette demande. J'ai cherché dans les conseils municipaux précédents et je n'en ai pas vu.
Ça n'a jamais été évoqué.
Du coup,
on
n'a
pas fait de demande.
Alors, je me demandais, comme c'est une. Au cours de la commission permanente du conseil départemental, nous avons voté au titre de la répartition des crédits relatifs au programme aide aux communes. Est-ce que du coup, c'est une décision unilatérale du conseil départemental? Mais ça m'étonnerait. Et si nous n'avons pas fait de demande de subvention, quelle est la légalité de cette subvention? Puis c'est pas passé un conseil municipal. Ce qui serait dommage de faire le 90.
Tout à fait. Je vais regarder et je vais voir si on peut le faire d'une manière rétroactive.
Moi, je ne l'ai pas vu. Hein.
Je ne sais pas. Je crois que je n'ai pas demandé.
Je suis persuadée que je suis persuadée. Je vais vérifier. Je vais me renseigner pour savoir si on peut le faire d'une manière rétroactive.
Oui.
Un terrain simple, il n'y a pas de couloir de double, et c'était très à propos pour mettre un terrain de paddle, puisque les distances s'y prêtaient, qu'on n'avait pas de grosses modifications à faire sur le plan technique pour implanter un paddle. Le deuxième éventuellement terrain, si on en fait un, il se trouvera contre le mur de frappe qui existe au tennis. Là, pareil, on est un petit peu coincé, puisqu'il nous faut 13 mètres par 20, donc il faudra qu'on fasse un petit mur de soutènement pour décaler la largeur du terrain pour pouvoir coincer un terrain ici. Ça nous demande quelques travaux d'aménagement sur le plan du terrassement et un peu de gros œuvre sur un mur de soutènement qui fera environ 25 mètres. Mais honnêtement, on va être. J'ai budgétisé et j'ai fait faire plusieurs devis par des entreprises. Je pense que c'est quelque chose qui, grâce aux subventions, ne va pas coûter grand chose à la mairie, qui est quelque chose d'intéressant pour les clubs sportifs, puisque c'est. Il y a une grosse demande sur le nord du département, et je pense qu'on est dans le bon timing. Et surtout, ça va permettre aussi, alors après on va voir comment on s'organise avec le club de tennis, de récupérer des recettes, puisqu'un terrain de paddle, ça se coûte à peu près 7 euros par personne et par heure, donc 28 euros. Et le club que j'ai sollicité autour, notamment le club de Bobbio, m'ont montré un petit peu leur compte, et effectivement, c'est un apport financier qui peut être important pour le club de tennis ou pour les associations sportives, et surtout ça dynamise un peu le club, les associations, et surtout on sait qu'il y a une forte demande dans le nord du département. Voilà.
La dernière information, je voulais vous parler du procès verbal et du compte rendu des conseils municipaux. Le dernier conseil municipal a été très bon au niveau des interventions et a nécessité nécessité 5 heures de travail pour faire un procès verbal mot à mot. Nous avons décidé dans la commune de Montfermier d'enregistrer les conseils municipaux. Je pense que l'enregistrement du conseil municipal permet de suivre le conseil du début jusqu'à la fin, avec toutes les interventions de les interventions, les questions, les réponses, aussi bien des adjoints, du maire, etc. Donc, c'est tout l'intérêt de l'enregistrement audio. Ça permet une complète transparence du conseil municipal. Une complète transparence. Ce qui évite ce que vous avez fait pour le PV du conseil municipal passé. Vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit tel mot, vous n'avez pas écrit la telle phrase, etc. etc. Donc, nous avons tous ensemble, collégialement, décidé que, à partir d'aujourd'hui, nous aurons des comptes rendus succincts de conseils municipaux, c'est-à-dire les délibérations avec les votes, les pour, contre, etc. Ces conseils, ces comptes rendus succincts seront écrits par moi-même, seront affichés. Nous avons créé un panneau d'affichage à la mairie, un nouveau panneau d'affichage consacré uniquement au conseil municipal, chose qui n'existait pas avant, uniquement au conseil municipal, dans lequel nous mettrons l'ordre du jour, la convocation et le compte-rendu succinct, c'est-à-dire les X pages correspondant à l'ordre du jour du conseil municipal. Et c'est une, comme le dit M. Degès, c'est une obligation légale. Nous devons l'afficher, en plus ce compte-rendu, au maximum 8 jours après le conseil. Ça, c'est ce que nous ferons. Et nous ferons passer à la signature un compte-rendu succinct qui sera signé par tout le monde. C'est l'intérêt d'avoir mis en place un audio. Beaucoup de communes n'ont pas mis en place l'audio et font donc des procès-verbaux très détaillés qui font remonter les échanges, puisque c'est le seul moyen, par le biais des procès-verbaux détaillés, de faire remonter ce qui s'est passé au conseil municipal. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de mettre en place les audios. Donc, toutes les personnes, tous les administrés peuvent écouter le conseil municipal et entendre de A à Z tout ce qui s'est dit en conseil municipal. Je rebondis sur le fait que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait trois séquences de conseil municipal, parce que la carte que nous avons au sein de ce micro n'est pas suffisante pour contenir tout le conseil municipal en une seule pièce. Donc vous avez une heure, et puis ensuite, ce qui reste derrière, c'est une fois 20 minutes, deux fois 20 minutes, enfin voilà. Voilà pourquoi c'est en plusieurs séquences. Donc, nous allons fonctionner comme ça, parce que Mme Gollin a demandé pourquoi les secrétaires ne faisaient pas le compte-rendu, le procès-verbal. Ce n'est pas aux secrétaires de faire les procès-verbaux des conseils municipaux. Ce n'est pas aux secrétaires. C'est une problématique d'élus. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas, M. Steve Chrétien, qui était secrétaire de séance la fois dernière, 5 heures pour faire un compte-rendu. On ne va pas demander 5 heures à une secrétaire pour faire un compte-rendu. Donc aujourd'hui, nous avons l'audio. Tout est audible sur cet audio. Aujourd'hui, bon, ça fonctionne, tout marche bien. Donc on peut suivre le conseil municipal avec tous les débats qui ont lieu, comme aujourd'hui par exemple. Et nous ferons un compte-rendu succinct qui sera affiché et que vous signerez. Et que vous ne signerez pas si vous ne pouvez pas le signer. Donc nous allons partir sur ce mode de fonctionnement-là. C'est juste une information que je vous donne.
Juste une petite suggestion, est-ce que ce serait peut-être possible, envisageable, de mettre un chapitrage sur l'audio pour accéder plus facilement à telle et telle partie, éviter, parce que c'est vrai qu'un document écrit, ça se fait quand même plus vite, écouter 2 heures plus d'audio, c'est un peu fastidieux. Et parce que par contre, c'est pas très bien si on prend en cours de route, nous on se voit, etc. Donc si on en est, je pense que c'est assez déstabilisant sinon pour rentrer dedans.
On va regarder et je ne sais pas, Steve ou. Enfin, je ne sais pas, on va regarder ou on va demander à un professionnel de nous expliquer comment au niveau technique on peut.
Bon, moi, je peut-être juste dire. À ce qui est affiché, ça c'est à 1h26, c'est le point 2, le point 3 pour que quelqu'un qui est intéressé par le point 4 puisse s'y retrouver.
Tout à fait, vous avez raison. On va voir ce qu'on peut faire et puis on essaiera de faire au mieux. Je pense.
Je me permets d'abord.
Oui.
J'apporte juste une petite précision, c'est que effectivement, comme Madame Le Maire vient de le dire, il y a les contraintes techniques font que le fichier se décompose en fait en fichier d'une heure. Après, on a une autre contrainte technique qui est ce que supporte le site en poids de fichier, le site de la mairie. Là, on a été confronté au cas où c'est pour ça que pendant un certain temps les audios n'étaient pas mis, c'est que l'espace disponible n'était pas suffisant. Donc, si vous voulez, quand on additionne toutes les contraintes techniques qui sont dues au fait que le site internet disparaît d'un moment, le fait que c'est tout nouveau de procéder à l'enregistrement audio, voilà. Donc, avec Amélie, on regarde ces questions tous les deux. Le chapitrage, on va regarder ce qui est possible.
Il y a deux petites remarques. La première, c'est que Céline a donné le rendez-vous secrétaire qui avait en place le procès-verbal.
Ça a été suggéré, M. Pétain. Après, le fait de ne pas pouvoir mettre 2 heures à la file, aujourd'hui nous avons ce problème-là. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, on va voir comment on va pouvoir le mettre sur le site, etc. Mais tout ça, l'audio, c'est quelque chose de nouveau encore, Mme Gaulin. Ça n'a jamais été fait sous l'ancien mandat. Donc c'est quelque chose de nouveau. Nous avons un site que nous n'avons pas encore fait évoluer, améliorer et peut-être rendre plus accessible pour tous les audios. Donc voilà, nous allons.
C'est juste que. En attendant que l'audio marche, ce serait bien d'avoir un compte rendu écrit circonstancié des échanges autour de en conseil municipal.
Oui,
je
suis
à la commission.
Merci, Monsieur Bord.
Bien.
Monsieur Bord, c'est une information, hein. On n'est pas là pour débattre. Hein.
Je comprends bien. Mais l'information, c'est que, si je comprends bien, vous revenez sur ce que vous avez dit le précédent conseil municipal. Vous avez indiqué. Et on a envoyé à M. Chrétien l'ensemble de nos remarques pour étudier et écrire mot par mot, ligne par ligne, c'est ce que l'on dit dans le conseil municipal que M. Chrétien a retranscrit sur le PV. Donc il n'a pas dû passer beaucoup de temps puisqu'on a donné exactement ce qu'il avait à faire.
Si, monsieur, bon, donc, je ne veux pas discuter, monsieur Bord. Quelle est votre question?
Je dis là, pour le 14 avril, nous avons deux documents, un à minima des amis sur le site de la commune, appelé compte rendu. Conforme à ce qui a été mis en conseil que vous nous avez demandé d'approuver, appelé procès-verbal. On s'interroge sur ces deux versions. Le PV de la séance du conseil municipal le 14 avril 2021, voté ce 30 juin, est public et donc il doit être tenu à disposition de tous les habitants de la commune, d'autant plus qu'en période Covid, ils ne pouvaient assister au conseil municipal. Madame la maire, vous avez peut-être le droit de faire cela. Je le sais, vous avez le droit. Mais votre devoir vous engage à donner l'information complète aux habitants de Montferrier et non de censurer les échanges verbaux qui se sont tenus et qui sont l'expression des membres du conseil.
Merci, M. Bourrelli. On va passer aux questions diverses. M. Bourrelli, vous n'en avez pas. À vous la parole, M. Bourrelli.
Merci. Alors, première question, elle concerne les activités associatives. Football, pétanque, tennis et musique bientôt. 4 associations ont ou vont avoir un local. Pour le football, la pétanque et le tennis, pourriez-vous nous indiquer le coût financier global annuel que représente chacune des activités sportives pour la commune, subvention, mairie, entretien, les infrastructures, le terrain, l'eau, l'électricité, chauffage, du personnel, mise à disposition. Également, pourriez-vous nous indiquer le nombre total de licenciés, le nombre de licenciés qui habitent la commune par activité sportive, mais également par argent professionnel. En à faire. Pour l'équipe, l'entente sportive de Saint-Clément-Montferrier, dont le nom Montferrier d'ailleurs apparaît en second, en même temps sur les classements dans le journal, quel est le montant des aides de la commune de Saint-Clément et donc le pourcentage financier par rapport au Courbevoie. Cette demande fait suite au nouveau projet que vous avez présenté le 25 mai 2021 concernant l'école de musique. Un bâtiment est prévu à l'arrière de Vézou, un peu plus de 200 mètres carrés, pour accueillir l'école de musique de la Lire. Cela fera une quatrième association qui aura son espace particulier. Quel sera également le coût pour la commune? C'est une question qui s'inscrit bien sûr dans les aspects financiers importants, disons, pour notre commune et pour tous les habitants, bien entendu.
Pour l'école de musique, c'est très simple, c'est un transfert de l'espace Lucien Niquel à l'école de musique, donc les coûts seront les mêmes, puisque aujourd'hui l'école de musique existe à l'espace Lucien Niquel avec des salles, du ménage, de la sécurité, enfin tout sera donc exactement identique à l'école de musique. Donc déjà, nous n'allons pas aggraver le coût au niveau de l'école de musique. Ensuite, les demandes que vous faites pour les autres clubs, je pense que ce sont des demandes que vous devriez faire aux associations elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il faudrait aller voir le foot pour connaître le nombre d'adhérents au Ferriérain et non au Ferriérain. Il faudrait aller voir la pétanque pour savoir quels sont, parce que vous nous demandez les hommes, les femmes, ça ce n'est pas un travail de mairie. Hein. Ça, il faut aller voir les différentes associations qui, elles, seront capables de vous dire s'ils ont 50% d'hommes, 50% de femmes, 30% de non-ferriérains, 70% de non-ferriérains, etc., etc. Les subventions, vous les connaissez, puisque nous les votons. Donc, vous connaissez les subventions. Donc, voilà, je vous ai répondu. Trois associations qui existent déjà aujourd'hui et qui ont leur fonctionnement. Si vous voulez plus d'explications sur les associations, allez les voir. Et puis, je suppose qu'elles vous donneront sans problème. Quant à l'entente Saint-Clément-Montferrier, ce nom remonte à une certaine époque.